Vous êtes bien à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 3h à Paris, 1h en temps universel.
Mathis Limano.
Cette onde de choc au Moyen-Orient et dans le monde, la mort d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, dans une frappe israélienne. Les réactions se multiplient. L'Iran vient de demander en urgence une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Les Nations Unies, dont l'Assemblée générale se poursuit. Ce samedi, le représentant du Mali était à la tribune. Il s'en est vertement pris à l'Algérie, vous l'entendrez. Et puis du sport, du tennis, à la fin de votre journal. Le numéro 1 mondial, Yannick Sinner, pourrait finalement bien être condamné pour dopage. Bienvenue. À la une de l'actualité du monde, la mort d'Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah. D'abord annoncée par l'armée israélienne dans la matinée de samedi, elle a été confirmée par le Hezbollah plus tard dans la journée. Hassan Nasrallah était le leader du mouvement chiite depuis 32 ans. Il a été tué dans une série de bombardements sur Beyrouth vendredi soir, lorsqu'un déluge de bombes s'était abattu dans la banlieue sud de la capitale libanaise où se trouve le fief du Hezbollah. Paul Khalife, en l'espace de 2 semaines, Israël a changé les règles du jeu en éliminant le secrétaire général du parti et la plupart de ses hauts commandants militaires.
En combinant les assassinats ciblés et l'intensification des frappes aériennes, Israël a mis une énorme pression sur le Hezbollah. En l'espace de 2 semaines seulement, l'armée israélienne a tué le secrétaire général Hassan Nasrallah, un nombre encore indéterminé de hauts responsables politiques et militaires lors de la frappe survenue vendredi et la plupart de ses hauts commandants militaires. En juin et juillet, elle avait réussi à éliminer les chefs de 2 des 3 unités territoriales déployées dans le sud du Liban et le commandant suprême Fouad Choukr. Il faut ajouter à cela plusieurs milliers de réservistes du Hezbollah blessés dans l'explosion des beepers et des talkie-walkie mardi 17 et mercredi 18 septembre. Et pourtant, même décapité, le Hezbollah ne semble pas avoir été mis KO. Le parti poursuit ses opérations militaires contre Israël, même si leur rythme a baissé. Ce samedi, il a revendiqué le tir de dizaines de roquettes dans 5 opérations. Ses médias continuent de fonctionner, de même que ses principales institutions sociales. Reste à savoir s'il s'agit d'un baroud d'honneur ou d'une volonté tenace de continuer le combat. Les prochains jours nous le diront. Paul Khalife, Beyrouth. RFI.
Alors que les raids israéliens ont fait 33 morts et près de 200 blessés ce samedi, les réactions ont fusé de toutes parts après l'annonce de la mort d'Hassan Nasrallah. L'Iran, premier soutien du Hezbollah, vient de demander une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, promettant par le vice-président iranien la destruction d'Israël. Autre allié de la milice libanaise, les rebelles houthis du Yémen. Leur chef affirme que la mort de Nasrallah ne sera pas vaine. Les houthis qui ont affirmé avoir tiré dans la soirée de samedi, un missile sur l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Du côté d'Israël, Benjamin Netanyahou a affirmé que l'État hébreu a réglé ses comptes avec le Hezbollah et que la mort de Nasrallah va faire avancer le retour des otages à Gaza. Pour Joe Biden, son assassinat est une mesure de justice pour ses nombreuses victimes, dont des milliers de civils américains, israéliens et libanais. Le président américain qui a toutefois appelé un nouveau cessez-le-feu. Au Liban, 3 jours de deuil national ont été décrétés à partir de lundi, 5 jours en Iran. RFI, les 21h03 à New York, où l'Assemblée générale des Nations Unies se poursuit. Ce samedi, à la tribune, le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement du Mali, et il s'en est pris à l'Algérie. Il y a quelques semaines, le représentant algérien auprès de l'ONU avait dénoncé les frappes de drones ayant tué des civils dans la localité frontalière de Tinzawaten. Des frappes menées juste après la sévère défaite des militaires maliens et des mercenaires russes contre les rebelles Touaregs dans cette même région. Le représentant malien a accusé les diplomates algériens d'héberger des terroristes.
Nous constatons une grave ingérence dans les affaires intérieures du Mali. Depuis la fin de l'accord d'Alger le 25 janvier 2024, les Maliens n'expriment qu'un seul vœu le concernant, que son âme repose en paix. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, l'accord est bien et bel mort, vos incantations ne serviront pas à le ressusciter. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. Quant aux représentants permanents algériens, en plus d'offrir le gîte et le couvert, certainement avec de succulents plats de tchèque-tchouka et de chorba, à des terroristes et des renégats en débandade, son rôle d'estafette désorientée ne contribue guère à la promotion des relations de bon voisinage. De ces propos, il ressort des accusations graves et infondées. D'une part, la qualification de la nature civile des victimes est aventureuse et diffamatoire. Et d'autre part, En affirmant que les opérateurs de drones n'ont de compte à rendre à personne, ils alimentent une campagne de désinformation contre le Mali, tout en soutenant l'idée que les vaillantes forces de défense et de sécurité maliennes seraient incapables de piloter des drones.
Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement malien à l'Assemblée générale des Nations unies. Et en bref, manifestation en cours au Venezuela pour réclamer l'accession au pouvoir d'Edmundo González Urrutia. 2 mois après l'élection présidentielle contestée, la diaspora vénézuélienne aussi appelée à manifester partout dans le monde. Rassemblement et manifestation également au Royaume-Uni. Plusieurs milliers de Britanniques ont manifesté ce samedi dans les rues de Londres pour réclamer un rapprochement avec l'Union européenne. Depuis le référendum sur la sortie de l'UE en 2016, certains continuent d'espérer une réintégration. Plus qu'un deuxième référendum, les manifestants réclament surtout une réadhésion au marché unique et le recouvrement de leur liberté de mouvement. Beaucoup de retraités au sein du cortège, mais aussi quelques jeunes qui se sentent particulièrement lésés par le vote de 2016, comme Liam, rencontré par notre correspondante à Londres.
J'avais 16 ans au moment du vote, donc je n'ai pas pu participer. Je n'ai rien eu à dire sur un sujet qui m'affecte énormément et qui va continuer de m'affecter pour un long moment, plus longtemps en tout cas que ceux qui ont effectivement voté. Nous n'avons pas eu notre mot à dire la dernière fois, alors c'est important que l'on s'exprime maintenant pour être entendu. Le gouvernement doit se réveiller et admettre que ça n'a pas fonctionné. Tout le monde parle de faire fonctionner le Brexit, ce qui pour moi sous-entend que le Brexit n'a pas marché. Mais personne ne le dit clairement. Toute la classe politique doit faire preuve d'honnêteté. Le gouvernement travailliste dit vouloir faire passer le pays avant le parti, être plus transparent. Eh bien qu'il soit transparent et admette que le Brexit a été un échec retentissant.
Ce manifestant au micro RFI d'Emeline Vin à Londres. Au moins 53 morts aux États-Unis après le passage de l'ouragan Helene et des millions d'Américains toujours privés d'électricité dans le sud-est du pays. Les équipes de secours s'activent pour établir le courant et faire face aux conséquences des inondations massives qui ont détruit maisons, routes et commerces de la Floride à la Caroline du Nord, des inondations qualifiées d'historiques par le Centre américain des ouragans. RFI 3h07 à Paris. On ouvre notre page sport avec d'abord du tennis et ce rebondissement dans l'affaire de dopage impliquant le numéro 1 mondial Yannick Sinner. Alors qu'il avait été blanchi fin août par un tribunal indépendant après un double contrôle positif, un stéroïde anabolisant, eh bien l'Agence mondiale antidopage vient de faire appel de cette décision. L'Italien risque 1 à 2 ans de prison, de suspension. Eric Mamrut.
C'est après un long silence que beaucoup avaient dénoncé que cette affaire était sortie le mois dernier. Yannick Sinner blanchi par l'ITIA, l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis, après avoir étudié les 2 contrôles positifs de l'Italien du mois de mars, ses doses inférieures à 1 milliardième de gramme de clostébol trouvées dans ses urines. Pour sa défense, le numéro 1 mondial avait expliqué que ce sont les mains de son masseur qui l'avaient contaminé. Masseur qui avait soigné l'un de ses doigts égratigné avec un spray contenant ce stéroïde anabolisant. Une version convaincante selon l'ITIA qui avait conclu que Yannick Sinner n'avait commis aucune faute ni négligence. Rebondissement aujourd'hui puisque l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, estime que cette conclusion n'est pas correcte au vu des règles applicables. Elle a donc fait appel à la grande surprise de Yannick Sinner.
I'm very disappointed and also surprised.
Je suis évidemment très déçu, aussi surpris de cet appel, parce que nous avons eu 3 audiences et elles avaient été très positives pour moi, donc je ne m'y attendais pas. C'est une surprise, mais vous savez, on parle toujours de la même chose. Peut-être qu'ils veulent juste s'assurer que tout a été fait correctement. Je suis juste surpris qu'ils aient fait appel.
L'AMA demande une suspension d'1 ou 2 ans à l'encontre de l'Italien. La balle est maintenant dans le camp du tribunal arbitral du sport qui livrera son verdict dans les prochaines semaines.
En attendant, Yannick Sinner peut continuer à jouer. Il s'est d'ailleurs qualifié ce samedi pour les quarts de finale du tournoi de Pékin. Du foot maintenant, avec la suite de la 6e journée de Ligue 1. Monaco l'a emporté sur le fil 2-1 face à Montpellier. Un peu plus tôt dans l'après-midi, Lens et Nice se sont quittés sur un match nul 0-0 et Lille s'est imposé au Havre 3-0. À noter en Espagne cette déconvenue du FC Barcelone battu 4-2 par Osasuna. En Angleterre, les Reds de Liverpool prennent la tête du championnat grâce à leur victoire sur Wolverhampton et au match nul de Manchester City. Et puis en MMA, les arts martiaux mixtes. Un combat était très attendu ce samedi soir à la Bercy Arena de Paris. Benoît Saint-Denis contre le Brésilien Renato Moicano. Le Français battu sur décision du médecin à l'issue du 2e round. RFI presque 3h10 à Paris, 1h10 en temps universel. Retour dans l'information dans 50 minutes.